Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nos lectures en liberté se continuent avec la suite du roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Enfin, Emma se souvint qu'au château de Vaubyessard, elle avait entendu la marquise appeler Berthe, une jeune femme. Dès lors, ce nom-là fut choisi. Et comme le père Rouault ne pouvait venir, on pria M. Homais d'être parrain. Il donna pour cadeau tout produit de son établissement, à savoir 6 boîtes de jujubes, un bocal entier de racahou, 3 coffins de pâte à la guimauve et de plus 6 bâtons de sucre candi qu'il avait retrouvés dans un placard. Le soir de la cérémonie, il y eut un grand dîner. Le curé s'y trouvait. On s'échauffa. Monsieur Homais, vers les liqueurs, entonna « Le dieu des bonnes gens ». Monsieur Léon chanta une barcarolle et Madame Bovary mère, qui était la marraine, une romance du temps de l'Empire. Enfin, Monsieur Bovary père exigea que l'on descendît l'enfant et se mit à le baptiser avec un verre de champagne qu'il lui versait de haut sur la tête. Cette dérision du premier des sacrements indigna l'abbé Bournicien. Le père Bovary répondit par une citation de la Guerre des Dieux. Le curé voulut partir. Les dames suppliaient, Homais s'interposa, et l'on parvint à faire rasseoir l'ecclésiastique qui reprit tranquillement dans sa soucoupe sa demi-tasse de café à moitié bu. Monsieur Bovary père resta encore un mois à Yonville, dont il éblouit les habitants par un superbe bonnet de police à galons d'argent qu'il portait le matin pour fumer sa pipe sur la place. Ayant aussi l'habitude de boire beaucoup d'eau-de-vie, souvent il envoyait la servante au Lion d'Or lui en acheter une bouteille que l'on inscrivait au compte de son fils. Et il usa pour parfumer ses foulards toute la provision d'eau de Cologne qu'avait sa bru. Celle-ci ne se déplaisait point dans sa compagnie. Il avait couru le monde. Il parlait de Berlin, de Vienne, de Strasbourg, de son temps d'officier, des maîtresses qu'il avait eues, des grands déjeuners qu'il avait faits. Puis, il se montrait aimable et parfois même, soit dans l'escalier ou au jardin, il lui saisissait la taille en s'écriant « Charles, prends garde à toi !» Alors la mère Bovary s'effraya pour le bonheur de son fils et craignant que son époux à la longue n'eût une influence immorale sur les idées de la jeune femme, elle se hâta de presser le départ. Peut-être avait-elle des inquiétudes plus sérieuses, M. Bovary était homme à ne rien respecter. Un jour, Emma fut prise tout à coup du besoin de voir sa petite fille, qui avait été mise en nourrice chez la femme du menuisier. Et sans regarder à l'almanach si les 6 semaines de la Vierge duraient encore, elle s'achemina vers la demeure de Rollet, qui se trouvait à l'extrémité du village au bas de la côte, entre la grande route et les prairies. Il était midi. Les maisons avaient leurs volets fermés, et les toits d'ardoise qui reluisaient sous la lumière âpre du ciel semblaient à la crête de leurs pignons faire pétiller des étincelles. Un vent lourd soufflait. Emma se sentait faible en marchant. Les cailloux du trottoir la blessaient. Elle hésita si elle ne s'en retournerait pas chez elle ou entrerait quelque part pour s'asseoir. À ce moment, M. Léon sortit d'une porte voisine avec une liasse de papier sous son bras. Il vint la saluer et se mit à l'ombre devant la boutique de l'heureux sous la tente grise qui s'avançait. Madame Bovary dit qu'elle allait voir son enfant, mais qu'elle commençait à être lasse. « Si, reprit Léon, n'osant poursuivre. « Avez-vous affaire quelque part ? » demanda-t-elle. Et sur la réponse du clerc, elle le pria de l'accompagner. Dès le soir, cela fut connu dans Yonville, et Madame Tuvache, la femme du maire, déclara devant sa servante que Madame Bovary se compromettait. Pour arriver chez la nourrice, il fallait, après la rue, tourner à gauche, comme pour gagner le cimetière, et suivre entre les maisonnettes et des cours un petit sentier que bordaient des troènes. Ils étaient en fleurs, et les Véroniques aussi, les églantiers, les orties et les ronces légères qui s'élançaient des buissons. Par le trou des haies, on apercevait dans les masures quelques pourceaux sur un fumier ou des vaches embricolées frottant leurs cornes contre le tronc des arbres. Tous les deux, côte à côte, ils marchaient doucement. Elle s'appuyant sur lui et lui retenant son pas qu'il mesurait sur les siens. Devant eux, un essaim de mouches voltigeait en bourdonnant dans l'air chaud. Ils reconnurent la maison à un vieux noyer qui l'ombrageait. Basse et couverte de tuiles brunes, elle avait en dehors, sous la lucarne de son grenier, un chapelet d'oignons suspendus. Des bourrées debout contre la clôture d'épines entouraient un carré de laitue, quelques pieds de lavande et des pois à fleurs montés sur des rames. De l'eau sale coulait en s'éparpillant sur l'herbe. Et il y avait tout autour plusieurs guenilles indistinctes, des bas de tricot, une camisole d'indienne rouge et un grand drap de toile épaisse étalé en long sur la haie. Au bruit de la barrière, la nourrice parut, tenant sur son bras un enfant qui tétait. Elle tirait de l'autre main un pauvre marmot chétif, couvert de scrofules au visage, le fils d'un bonnetier de Rouen que ses parents, trop occupés de leur négoce, laissaient à la campagne. « Entrez, dit-elle, votre petite fille est là, qui dort. » La chambre, au rez-de-chaussée, la seule du logis, avait au fond, contre la muraille, un large lit sans rideau, tandis que le pétrin occupait le côté de la fenêtre dont une vitre était raccommodée avec un soleil de papier bleu. Dans l'angle, derrière la porte, des brodequins à clous luisants étaient rangés sous la dalle du lavoir, près d'une bouteille pleine d'huile qui portait une plume à son goulot. Un Mathieu Langsberg traînait sur la cheminée poudreuse, parmi des pierres à fusil, des bouts de chandelles et des morceaux d'abadou. Enfin, la dernière superfluité de cet appartement était une renommée soufflant dans des trompettes, images découpées sans doute à même quelques prospectus de parfumerie et que 6 pointes à sabots clouaient au mur. L'enfant d'Emma dormait à terre dans un berceau d'osier. Elle la prit avec la couverture qui l'enveloppait et se mit à chanter doucement en se dandinant. Léon se promenait dans la chambre. Il lui semblait étrange de voir cette belle dame en robe de nankin tout au milieu de cette misère. Madame Bovary devint rouge. Il se détourna, croyant que ses yeux peut-être avaient eu quelque impertinence. Puis elle recoucha la petite qui venait de vomir sur sa collerette. La nourrice aussitôt vint l'essuyer, protestant qu'il n'y paraîtra pas. « Elle m'en fait bien d'autres, disait-elle, et je ne suis occupée qu'à la rincer continuellement. Si vous aviez donc la complaisance de commander à Camus, l'épicier, qu'il me laisse prendre un peu de savon lorsqu'il m'en faut, ce serait même plus commode pour vous que je ne dérangerais pas. » « c'est bien, dit Emma. Au revoir, Madame Rollet. » Et elle sortit en essuyant ses pieds sur le seuil. La bonne femme l'accompagna jusqu'au bout de la cour tout en parlant du mal qu'elle avait à se relever la nuit. « J'en suis si rompu quelquefois que je ne me rendors sur ma chaise. » Aussi vous devriez pour le moins me donner une petite livre de café moulu qui me ferait un mois et que je prendrais de matin avec du lait. Après avoir subi ces remerciements, Madame Bovary s'en alla, et elle était quelque peu avancée dans le sentier lorsqu'à un bruit de sabots, elle tourna la tête. C'était la nourrice. Qu'y a-t-il ? Alors la paysanne, la tirant à l'écart derrière un orme, se mit à lui parler de son mari qui, avec son métier de 6 francs par an, que le capitaine achevait plus vite, dit Emma. « Eh bien, reprit la nourrice, poussant des soupirs entre chaque mot, j'ai peur qu'il ne se fasse une tristesse de me voir prendre du café tout seul. Vous savez, les hommes... « Puisque vous en aurez, répéta Emma, je vous en donnerai, vous m'ennuyez. » Hélas, ma pauvre chère dame, c'est qu'il a, par suite de ses blessures, des crampes terribles à la poitrine. Il dit même que le cidre s'affaiblit. Mais dépêchez-vous, mère Rollet. Donc, reprit celle-ci, faisant une révérence, si ce n'était pas trop vous demander, elle salua encore une fois, quand vous voudrez, et son regard suppliait, un cruchon d'eau-de-vie, dit-elle enfin, et j'en frotterai les pieds de votre petite qui les a tendres comme une longue. Débarrassée de la nourrice, Emma reprit le bras de M. Léon. Elle marcha rapidement pendant quelque temps, puis elle se ralentit, et son regard qu'elle promenait devant elle rencontra l'épaule du jeune homme, dont la redingote avait un collet de velours noir. Ses cheveux châtains tombaient dessus, plats et bien peignés. Elle remarqua ses ongles qui étaient plus longs qu'on ne les portait à Yonville. C'était une des grandes occupations du clerc que de les entretenir, et il gardait à cet usage un canif tout particulier dans son écritoire. Ils s'en revinrent à Yonville en suivant le bord de l'eau. Dans la saison chaude, la berge plus élargie découvrait jusqu'à leur base les murs des jardins qui avaient un escalier de quelques marches descendant à la rivière. Elle coulait sans bruit, rapide et froide à l'œil. De grandes herbes minces s'y courbaient ensemble selon le courant qui les poussait, et comme des chevelures vertes abandonnées s'étalaient dans sa limpidité. Quelquefois, à la pointe des joncs ou sur la feuille des nénuphars, un insecte à pattes fines marchait ou se posait. Le soleil traversait d'un rayon les petits globules bleus des ondes qui se succédaient en se crevant. Les vieux saules ébranchés miraient dans l'eau leur écorce grise. Au-delà, tout alentour, la prairie semblait vide. C'était l'heure du dîner dans les fermes, et la jeune femme et son compagnon n'entendaient en marchant que la cadence de leurs pas sur la terre du sentier, les paroles qu'ils se disaient, et le frôlement de la robe d'Emma qui bruissait tout autour d'elle.
Il y a des jours, quand le jour se lève, on voudrait rentrer tout au fond d'un rêve. Puis soudain, lorsque le clocher sonne, il y a des jours où l'on n'est plus personne. Alors on ferme les yeux un instant. Quand on les rouvre, tout est comme avant. Les gens vous voient, mais leur regard s'étonne. Il y a des jours où l'on n'est plus personne. Comme au milieu d'un cinéma désert, on rembobine et tout passe à l'envers. Et quand on pense aux gens qu'on abandonne, il y a des jours où l'on n'est plus personne. Da-da. Il y a des jours où l'on n'est plus personne. son cœur à tous les vents qui passent, et qu'un matin tous les chagrins s'effacent, pour oublier dans le bonheur qu'on donne qu'il y a des jours où on n'est plus personne, qu'il y a des jours où quand le jour se lève, on voudrait rentrer tout au fond du rêve et s'endormir lorsque le clocher sonne. Il y a des jours où l'on n'a plus personne.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Retour donc à Madame Bovary. Les murs des jardins, garnis à leur chaperon de morceaux de bouteilles, étaient chauds comme le vitrage d'une serre. Dans les briques, des ravenelles avaient poussé, et au bord de son ombrelle déployée, Madame Bovary, tout en passant, faisait s'égrener en poussière jaune un peu de leurs fleurs flétries. Ou bien, quelques branches de chèvrefeuille et des clématites qui pendaient au dehors traînaient un moment sur la soie en s'accrochant aux effilés. Il causait d'une troupe de danseurs espagnols que l'on attendait bientôt sur le théâtre de Rouen. « Vous irez ?» demanda-t-elle. « Si je le peux, » répondit-il. N'avait-il rien d'autre à se dire ? Leurs yeux pourtant était plein d'une causerie plus sérieuse. Et tandis qu'ils s'efforçaient à trouver des phrases banales, ils sentaient une même langueur les envahir tous les deux. C'était comme un murmure de l'âme, profond, continu, qui dominait celui des voix. Surpris d'étonnement à cette suavité nouvelle, il ne songeait pas à s'en raconter la sensation ou en découvrir la cause. Les bonheurs futurs, comme les rivages des tropiques, projettent sur l'immensité qui les précède leur mollesse natale, une brise parfumée, et l'on s'assoupit dans cet enivrement sans même s'inquiéter de l'horizon que l'on n'aperçoit pas. La terre, à un endroit, se trouvait effondré par le pas des bestiaux. Il fallut marcher sur de grosses pierres vertes, espacées dans la boue. Souvent, elle s'arrêtait une minute à regarder où poser sa bottine, et, chancelant sur le caillou qui tremblait, les coudes en l'air, la taille penchée, l'œil indécis, elle riait alors de peur de tomber dans les flaques d'eau. Quand ils furent arrivés devant son jardin, Madame Bovary poussa la petite barrière, monta les marches en courant et disparut. Léon rentra à son étude. Le patron était absent. Il jeta un coup d'œil sur les dossiers, puis se tailla une plume, prit enfin son chapeau et s'en alla. Il alla sur la pâture, en haut de la côte d'Argueil, à l'entrée de la forêt. Il se coucha par terre sous les sapins et regarda le ciel à travers ses doigts. « Comme je m'ennuie !» se disait-il. « Comme je m'ennuie !» Il se trouvait à plaindre de vivre dans ce village avec Homais pour ami et Monsieur Guillaumin pour maître. Ce dernier, tout occupé d'affaires, portant des lunettes à branches d'or et favoris rouges sur cravate blanche, n'entendait rien aux délicatesses de l'esprit, quoiqu'il affectât un genre raide et anglais qui avait ébloui le clerc dans les premiers temps. Quant à la femme du pharmacien, c'était la meilleure épouse de Normandie, douce comme un mouton, chérissant ses enfants, son père, sa mère, ses cousins, pleurant aux maux d'autrui, faisant tout aller dans son ménage et détestant les corsets. Mais si lente à se mouvoir, si ennuyeuse à écouter, d'un aspect si commun et d'une conversation si restreinte, qu'il n'avait jamais songé, quoiqu'elle eût 30 ans, qu'il en eût 20, qu'il couchasse porte à porte et qu'il lui parlât chaque jour, qu'elle pût être une femme pour quelqu'un, ni qu'elle possédât de son sexe autre chose que la robe. Et ensuite, qu'y avait-il ? Binet, quelques marchands, deux ou trois cabaretiers, le curé et enfin M. Tuvache, le maire, avec ses deux fils, gens cossus, bourrus, obtus, cultivant leurs terres eux-mêmes, faisant les ripailles en famille, dévots d'ailleurs, et d'une société tout à fait insupportable. Mais sur le fond commun de tous ces visages humains, la figure d'Emma se détachait isolée et plus lointaine cependant, car il sentait entre elle et lui comme de vagues abîmes. Au commencement, il était venu chez elle plusieurs fois dans la compagnie du pharmacien. Charles n'avait point paru extrêmement curieux de le recevoir. Et Léon ne savait comment s'y prendre entre la peur d'être indiscret et le désir d'une intimité qu'il estimait presque impossible. Dès les premiers froids, Emma quitta sa chambre pour habiter la salle, longue pièce à plafond bas, où il y avait sur la cheminée un polypier touffu s'étalant contre la glace. Assis dans son fauteuil près de la fenêtre, elle voyait passer les gens du village sur le trottoir. Léon, deux fois par jour, allait de son étude au Lion d'Or. Emma, de loin, l'entendait venir, elle se penchait en écoutant, et le jeune homme glissait derrière le rideau, toujours vêtu de même façon et sans détourner la tête. Mais au crépuscule, lorsque le menton dans sa main gauche elle avait abandonné sur ses genoux sa tapisserie commencée, souvent elle tressaillait à l'apparition de cette ombre glissant tout à coup. Elle se levait et commandait qu'on mît le couvert. Monsieur Homais arrivait pendant le dîner. Bonnet grec à la main, il entrait à pas muet pour ne déranger personne et toujours en répétant la même phrase « Bonsoir la compagnie ». Puis, quand il s'était posé à sa place contre la table entre les deux époux, il demandait au médecin des nouvelles de ses malades et celui-ci le consultait sur la probabilité des honoraires. Ensuite, on causait de ce qu'il y avait dans le journal. Homais, à cette heure-là, le savait presque par cœur. Et il rapportait intégralement avec les réflexions du journaliste et toutes les histoires des catastrophes individuelles arrivées en France ou à l'étranger. Mais le sujet se tarissait, il ne tardait pas à lancer quelques observations sur les mets qu'il voyait. Parfois même, se levant à demi, il indiquait délicatement à madame le morceau le plus tendre. Ou, se tournant vers la bonne, il lui adressait des conseils pour la manipulation des ragoûts et l'hygiène des assaisonnements. Il parlait arôme, osmazôme, suc et gélatine d'une façon à éblouir. La tête, d'ailleurs, plus remplie de recettes que sa pharmacie ne l'était de bocaux. Homais excellait à faire quantité de confitures, vinaigres et liqueurs douces, et il connaissait aussi toutes les inventions nouvelles de caléfacteurs économiques avec l'art de conserver les fromages et de soigner les vins malades. À 8 heures, Justin venait le chercher pour fermer la pharmacie. Alors Monsieur Homais le regardait d'un œil narquois, surtout si Félicité se trouvait là, s'étant aperçu que son élève affectionnait la maison du médecin. « Mon gaillard, disait-il, commence à avoir des idées et je crois diable m'emporte qu'il est amoureux de votre bonne. » Mais un défaut plus grave et qu'il lui reprochait, c'était d'écouter continuellement les conversations. Le dimanche, par exemple, on ne pouvait le faire sortir du salon où Madame Homais l'avait appelé pour prendre les enfants qui s'endormaient dans les fauteuils en tirant avec leur dos les housses de calicot trop larges. Il ne venait pas grand monde à ces soirées du pharmacien. Sa médisance et ses opinions politiques ayant écarté de lui successivement différentes personnes respectables. Leclerc ne manquait pas de s'y trouver. D Dès qu'il entendait la sonnette, il courait au-devant de Madame Bovary, prenait son châle et posait à l'écart sur le bureau de la pharmacie les grosses pantoufles de lisière qu'elle portait sur sa chaussure quand il y avait de la neige. On faisait d'abord quelques parties de 31. Ensuite, M. Homais jouait à l'écarté avec Emma. Léon, derrière elle, lui donnait des avis. Debout et les mains sur le dossier de sa chaise, il regardait les dents de son peigne qui mordaient son chignon. À chaque mouvement qu'elle faisait pour jeter les cartes, sa robe du côté droit remontait. De ses cheveux retroussés, il descendait une couleur brune sur son dos et qui s'apâlissait graduellement, peu à peu se perdait dans l'ombre. Son vêtement ensuite retombait des deux côtés sur le siège en bouffant, plein de plis, et s'étalait jusqu'à terre. Quand Léon, parfois, sentait la semelle de sa botte posée dessus, il s'écartait comme s'il eût marché sur quelqu'un. Lorsque la partie de cartes était finie, l'apothicaire et le médecin jouaient au domino. Et Emma, changeant de place, s'accoudait sur la table à feuilleter l'illustration. Elle avait apporté son journal de mode. Léon se mettait près d'elle, ils regardaient ensemble les gravures et s'attendaient au bas des pages. Souvent, elle le priait de lui lire des vers. Léon les déclamait d'une voix traînante et qu'il faisait expirer soigneusement au passage d'amour. Mais le bruit des dominos la contrariait. M. Homais y était fort, il battait Charles à plein double six. Puis, les 300aines terminées, ils s'allongeaient tous les deux devant le foyer et ne tardaient pas à s'endormir. Le feu se mourait dans les cendres. La théière était vide. Léon lisait encore. Emma l'écoutait en faisant tourner machinalement l'abat-jour de la lampe où étaient peints sur la gaze des pierrots dans des voitures et des danseuses de cordes avec leurs balanciers. Léon s'arrêtait. Désignant d'un geste son auditoire endormi, alors ils se parlaient à voix basse. Et la conversation qu'ils avaient leur semblait plus douce, parce qu'elle n'était pas entendue. Ainsi s'établit entre eux une sorte d'association, un commerce continuel de livres et de romances. M. Bovary, peu jaloux, ne s'en étonnait pas. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc la suite de ce roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary, que nous retrouverons pour une dernière semaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.